Lucille Dignard, vous êtes directrice sortante, me dit-on, de l'organisme Séphir, organisme qui veut soutenir les gens qui vivent avec la sclérose en plaques. Bonjour d'abord.
Oui, bonjour.
Vous prévoyez sortir quand, vous qui êtes sortante?
Bien, je sors un pied. En fait, je prends ma retraite après 15 ans d'année à la sclérose en plaques. Je finis le 12 avril.
Oh, c'est bientôt.
Mais après ça, ben, je continue bénévolement le dossier de la coopérative des maisons et des logements adaptés
okay.
pour les gens ayant une maladie chronique comme la sclérose en plaques.
Vous avez trouvé un ou une successeur?
Oui, c'est déjà fait.
Oh.
Effectivement, là, actuellement, là, elle est en formation.
Bon, mais on lui souhaite bonne chance, puis on vous remercie d'être là. Peut-être, Lucille, avant de parler de l'organisme, juste nous rappeler la sclérose en plaques. Bon, moi, ce que j'en connais, ce sont des particulièrement des femmes âgées entre 20 et 40 ans, je crois, qui sont atteintes où le diagnostic se déclare. C'est encore vrai?
Oui. C'est en majorité des femmes. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est pour ça que nous, dans nos logos, nos couleurs, c'est le pourpre. On a un pourpre bleuté, puis on a un pourpre rosé. Okay. Parce qu'on peut se permettre ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Moi, je vous dirais, trois personnes là, sur quatre ont un diagnostic, ce sont des femmes. Là.
Oui.
Et ça augmente. Là. Ça augmente toujours cet écart-là.
Les premiers symptômes, Lucille, quels sont-ils?
Je vous dirais, c'est souvent, ce qu'on entend, c'est souvent un engourdissement.
Okay.
Quelqu'un, par exemple, va avoir une jambe qui engourdit, un pied qui engourdit, des fatigues excessives. C'est arrivé, par exemple, des fois que c'était beaucoup plus violent que ça. Par exemple, une personne peut faire une névrite optique, c'est-à-dire que c'est une infection qui va faire qu'elle peut perdre la vue pour quelque temps. Alors, c'est souvent un choc. Il y en a que ça se fait progressivement, qui vont regarder en arrière d'eux, puis ils vont dire « il y a des choses que je faisais avant que là, je ne fais plus. »
Ah oui, OK.
Ouais. Oui, alors, mais la
c'est
fatigue...
C'est génétique?
Là... Pardon?
C'est génétique?
Non. Heureusement, non. Mais il peut y avoir une fragilité dans une famille, parce que je connais des familles, des fois, il y a deux personnes qui peuvent avoir le diagnostic. Parfois, dans la famille, il y a d'autres maladies, là, d'autres maladies qui peuvent ressembler à ça,
mm-hmm.
fait que, comme la maladie de Crohn. Fait que c'est une maladie étrange, mal connue, encore inconnue, je dirais.
Mais est-ce qu'on en connaît la cause? Si c'est pas
non.
génétique, si
malheureusement,
c'est pas contagieux,
non.
On ne sait pas d'où ça vient?
Non. Non.
Ah ben.
Il y a des déclencheurs, par exemple, un stress intense. Mais on semble qu'il y aurait une fragilité et que cette fragilité, pour une raison ou pour une autre, elle peut faire en sorte qu'elle est déclenchée. Comme là, je vous disais, par exemple, un choc intense. Ça peut arriver, par exemple, des femmes qui vont accoucher. Après ça, ils développent la sclérose en plaques.
Ah,
je connais
oui.
quelqu'un qui est allé faire de l'escalade à un moment donné, puis elle s'est aperçue qu'elle est allée trop haut, puis quand elle est venue pour descendre, elle a vraiment fait une peur panique.
Donc, ce n'est
puis...
pas là du stress important sur une période de temps. C'est un
non.
événement qui peut être déclencheur.
Ça peut être un événement,
ah,
c'est
oui.
ça. Oui, ça peut être un événement. On pense peut-être à la mononucléose aussi, parce qu'il y a des
la
gens
fatigue.
Qui ont développé la sclérose en plaques, puis dans leur jeunesse ou leur enfance, ils avaient eu la mononucléose. On pense aussi à la cigarette. On pense à la manque de vitamine D, parce qu'on est dans un pays nordique. Et là où il y a le plus de cas répertoriés, c'est justement dans les pays nordiques. Et le Canada est un des pays au monde où il y a le plus de diagnostics de sclérose en plaques. Et ça viendrait, par exemple, entre autres, notre manque de soleil. On s'en mitoufle beaucoup.
Ouais,
on a juste
ouais.
le bout du nez qui sort.
Ouais.
Puis...
ça, alors, on est prêt avec ça pour le restant de ses jours après?
Alors, c'est pas... Oui,
avec,
malheureusement.
Bon, quand même, rémission et progression. Mais je crois que les poussées sont de plus en plus longues et de plus en plus intenses au fur et à mesure qu'on vieillit, c'est ça?
Je dirais pas nécessairement
non, okay.
ça, parce que moi, je vois des cas où ça diminue. Mais
ah,
je dirais,
okay.
pour résumer, là, il y a deux sortes. Juste pour que ce soit plus facile à comprendre, il y a deux sortes. Il y en a une qui est comme progressive, doucement. Elle peut progresser. Habituellement, ça progresse doucement. Et comme je vous dis, on regarde l'année d'avant, puis on... Oh, l'année dernière, je faisais ça. Cette année, je peux plus le faire.
Mm-hmm.
Ou c'est plus difficile. Ça, il y a une forme progressive. Parfois, elle peut être très agressive. Donc, dans l'espace de quelques années, la personne va se retrouver en fauteuil roulant. Mais ça, il y en a seulement à peu près 10 % là, sur les gens qui ont un diagnostic de forme progressive et la forme qui, actuellement, on pense qu'il va peut-être y avoir un médicament, mais pour le moment, il n'y a rien pour cette forme-là. Et l'autre forme, c'est justement, comme vous disiez, poussée rémission. Mmh. Alors, il y a un moment donné, il y a un pic dans la maladie, une inflammation qui se produit. Et après ça, bien là, ils vont donner de la cortisone, ils vont donner des médicaments pour, bon, justement, que cette inflammation-là diminue. Et après, souvent, il reste un petit quelque chose. On ne revient pas comme c'était avant. Il peut y avoir une fragilité qui s'est installé, comme par exemple un engourdissement dans le bout des doigts, moins capable de porter des poids avec la main droite. Ouais. Alors, et souvent des fois des fatigues plus ou moins extrêmes. Mais grâce à la médicamentation, ce qui arrive, c'est que ces poussées-là, le but des médicaments, c'est de faire qu'elles sont les moins dommageables possibles et qu'elles soient le plus espacées possible.
Le pourcentage des personnes atteintes qui peuvent conserver un emploi?
Oh, je vous dirais, c'est une grande majorité.
OK, tant mieux.
Une grande majorité, c'est une grande majorité des gens qui sont encore actifs, sont sur le marché du travail. C'est comme je vous dis, souvent des fatigues. Alors, les gens ont de légers symptômes qui vont faire que la personne, peut arriver, puis elle a une fatigue, elle va prendre 2 jours de congé, puis après ça, elle est bien toute l'année. Ça peut être bien 2-3 ans sans que ça bouge, là.
Est-ce que j'ai lu que, un peu comme la fibromyalgie, là, il pouvait y avoir des périodes de douleur intense?
La douleur, c'est pas tout le monde aussi. C'est pas un symptôme qui est
vraiment
pour tout le monde.
Hein?
Oui,
okay.
Oui. Je vous dirais, le symptôme qu'on retrouve le plus souvent, c'est une fatigue extrême.
OK.
Et c'est ce qui va faire que, par exemple, des personnes vont devoir demander leur invalidité.
Parce qu'on n'est pas capable
de
garder le rythme.
Ouais. C'est une fatigue intérieure. Et puis, c'est vraiment là, quelque chose de lourd, de pesant, qui t'enlève toutes tes capacités. Alors, comme tu ne peux pas garantir à ton employeur quand tu as cette forme de symptômes-là, quand tu ne peux pas garantir à ton employeur que chaque jour, tu es performant, et bien, à ce moment-là, souvent, les médecins vont conseiller à la personne, et en même temps, pour enlever le stress, de dire, regarde, tu serais peut-être mieux de demander l'invalidité.
Le plus grand besoin auquel Séphir tente de répondre, quel est-il?
Nous, je vous dirais que le plus grand besoin, là, c'est d'avoir avec nous des employés, comme par exemple des travailleurs sociaux, des intervenants diplômés, parce qu'on a un très petit budget. Donc, c'est difficile pour nous là, d'avoir du personnel qualifié. Alors, moi, j'étais pendant 13 ans la seule employée ici.
Oh! Et vous aidez autant les proches aidants que les personnes atteintes?
Oui, parce que une maladie chronique, là, ça affecte toute la famille. Mm-hmm. Et même les amis, je vous dirais, parce qu'on vient des fois qu'on ne sait plus quand, je vais te donner un exemple, le symptôme de la fatigue est tout le temps là, ou assez souvent, puis là, faut que tu dises à ton conjoint ou à ta conjointe, puis aux enfants, je peux pas aujourd'hui, je suis fatiguée. Et ça ne paraît pas à l'extérieur. Donc, souvent, les gens, il va se développer une aigreur. On va dire, toujours fatigué. Oui, mais c'est réel. C'est réel.
Ouais.
Alors, les gens se taisent, en parlent plus, et souvent, là, ils viennent qui sont isolés dans cette maladie-là.
Lucille, comment est née l'idée de cette boutique de livres et de matériaux usagés, que ce soit magazines, CD? C'est quand même assez novateur comme façon d'aller chercher des fonds.
Oui, je vous dirais que moi, je suis une fille de la Côte-Nord. Puis, sur la Côte-Nord, on est habitué, nous, à ce que les gouvernements nous promettent mer et monde.
Ouais.
Là, ils nous amènent plein d'affaires. Puis, l'autre gouvernement, après ça, nous les enlève. Alors, on a développé la débrouillardise. Et puis, comme on est un organisme communautaire autonome reconnu par le ministère de la Santé, on a un petite subvention à chaque année qui nous permet de tabler sur cette subvention-là. Alors donc, moi, je regardais ça puis je me disais, il faudrait qu'on ait des choses permanentes, des choses qui nous appartiennent, mais pas des levées de fonds qu'on organise à chaque
année, deux, trois fois par année
et qui nous mangent énormément d'énergie.
Puis achaler toujours le même monde. Je veux dire, là, la boutique est là, j'ai envie d'un livre, je vais aller bouquiner.
Et voilà.
Puis en même temps, tant mieux, j'aide d'autres gens, mais j'y vais pour moi d'abord et avant tout.
Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on a développé le principe d'une économie sociale, d'une petite entreprise d'économie sociale. Et ça nous permet en même temps de faire que nos gens, on leur permet de faire de l'insertion aussi, de l'intégration sociale. Et puis, alors, tous nos bénévoles à la boutique. Ça a commencé, en fait, l'histoire a commencé par une levée de fonds, une vente de garage par quelqu'un qui était atteint de sclérose en plaques. Et avec les années, bien, cette vente de garage-là grossit. Et la maladie ayant pris la place, elle m'a offert de reprendre le flambeau. Et oui, c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est devenu cette vente de garage-là, qui s'appelait Les Livres de l'Espoir, est devenue une boutique des Livres de l'Espoir. Et maintenant, en plus, non seulement on permet à des gens atteints de sclérose en plaques d'être bénévoles dans cette boutique-là, parce qu'elle est tenue entièrement par des bénévoles.
C'est une bonne idée.
C'est qu'en même temps, elle permet à des gens, nous, on ne vend pas les livres plus que 5 $ parce que ce sont tous des dons qu'on reçoit. Donc, elle nous permet d'offrir des livres à moindre coût à des gens qui ne sont pas argentés. Et en même temps, on donne à d'autres, on donne aux suivants. Mm-hmm. Alors, on a ouvert des bibliothèques dans des centres d'hébergement où on a des gens qui sont atteints de sclérose en plaques et qui demeurent là. Et quand on va les visiter, on en profite pour renouveler leur bibliothèque. On donne aussi à l'Assemblée, à la Fondation de l'Assemblée nationale qui s'appelle Culture à partager. Alors, eux, quand ils reçoivent des demandes de livres, par exemple, quand c'est pour des villes ou des petites communautés qui n'ont pas de bibliothèque, alors eux, ils envoient des livres selon les besoins et aussi dans d'autres pays où c'est la langue française là, qui alors, ils cherchent des livres. Donc, nous, on nous envoie des commandes de livres.
Je vais terminer là-dessus, Lucille. Bon, comme moi, j'ai au moins une, sinon deux boîtes de CD, des disques que j'écoute plus souvent. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont des boîtes de livres, mais bon, la plupart sont peut-être un petit peu éloignés de Granby. Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce que parfois vous envoyez des gens à Montréal pour ramasser des choses à Montréal ou autour de Granby dans la région? Comment on peut vous fournir du matériel?
Je vous avoue qu'on ne se déplace pas parce que ça demande un équipement.
Je comprends.
Et puis nous, nos gens ont des fragilités, donc on ne peut pas se permettre de se déplacer. Alors, c'est ça, oui,
on ramasse. Et la boutique est sur quelle rue en terminant?
On est sur la rue Saint-Joseph à Granby. On ramasse des revues, des magazines, comme vous. En plus, on ramasse des CD, des DVD et bien sûr des livres.
Bonne retraite à vous.
Merci beaucoup.
Et j'invite les gens à aller sur le site du CEFIR parce qu'en même temps, bon, il y a des événements de levée de fonds plus ponctuels. Il y a différentes façons là, de pouvoir aider financièrement et peut-être même si vous êtes dans le coin, que c'est un organisme qui pourra vous offrir des services dont vous avez besoin. Merci beaucoup, Lucille Dignard.
Merci beaucoup. Au revoir.